Chapitre 8. Âme.
Dès le lendemain, sur la base, tout le monde sait ce qui s'est produit entre 65 et moi. Je n'en suis pas peu fier. Les soigneurs, qui sont toujours adorables avec moi, me montrent comment nourrir un singe au biberon. À 17h, muni d'une bouteille surmontée d'une tétine, je rentre dans la pièce dévolue à 65. Il m'attend. Quand j'ouvre la porte de la cage, il refait son geste. Je lui montre le biberon. Il met ses pattes sur mes mains et se met à téter. Cela dure bien 20 minutes. Après ça, le voilà tout somnolent. Il se couche dans sa cage et je le peigne doucement. En 2 semaines de biberon, 65 se remplume. Après le biberon, je le fais passer, toujours sur les conseils des soigneurs, à la bouillie que je lui sers à la cuillère. Enfin, le jour de mes 14 ans et de ses 1 an, mon père lève la quarantaine. 65 reçoit son autorisation de sortie. Ce jour-là, même Mam et Lucie viennent fêter l'événement dans le labo. Je trouve que c'est le bon moment pour changer son matricule en un prénom. Et je décide de l'appeler Am. C'est tout bêtement l'acronyme de Holoman Aerospace Medical Center. Les ingénieurs, les soigneurs, ma mère et même ma sœur et mon père trouvent ça chouette. D'abord immobile, devant tout ce monde, Am applaudit. C'est le tour que je viens de lui apprendre et tout le monde éclate de rire. Désormais, Am et moi avons le loisir de nous promener à l'air libre, dans l'enceinte des locaux de la NASA. Il se montre curieux de tout, comme un jeune enfant. Il glisse sa main dans la mienne et nous marchons côte à côte dans les couloirs du bâtiment. Comme je veux qu'il devienne toujours plus intelligent, je rivalise de créativité pour motiver sa soif d'apprendre. Tantôt, je lui cache sa nourriture, tantôt je lui donne des boîtes à ouvrir, d'autres fois je lui montre des outils et lui demande de s'en servir, comme il m'a vu le faire. Il est vif et malin. Je suis fier, très fier de lui. Il ne met jamais longtemps à comprendre l'astuce pour réussir tel ou tel tour et ne commet quasi jamais d'erreur. Mais ce qu'il préfère, ce sont nos séances de lecture. Il veut tenir le livre ou tourner les pages. Il va bien trop vite pour que je puisse tout lire et prononcer les mots en entier. Plus que l'histoire, évidemment, c'est le son de ma voix qu'il aime entendre, moi qui la déteste. Sa confiance en moi me rend peu à peu la mienne et je bégaye un peu moins. Nous sommes en octobre quand Am se découvre une passion pour les pommes. Je ne sais pas pourquoi ce jour plutôt qu'un autre. Je sais juste que, comme d'habitude, j'ai pris une pomme avec moi, une petite pomme rouge et jaune, un peu acide. Am, assis contre moi, se lève d'un coup. Il ouvre mon sac et prend précautionneusement la pomme. Il me la tend. Je le remercie d'un grattage sous le menton. Il ne bouge pas et me semble attendre autre chose. Que veux-tu, Am ? Sûr de lui, il pointe la pomme et désigne ma bouche. « Ok, si tu veux. » Je croque dans le fruit. Il frappe ses deux mains. Je me dis que s'il le pouvait, il sourirait. Il me reprend délicatement la pomme. Il s'assoit à quelques centimètres de moi et termine royalement mon fruit. Je suis mort de rire. Cet échange devient notre cérémonial. Il m'offre la première bouchée et finit tranquillement notre pomme en laissant échapper des bruits de succion et de contentement. Quand je raconte l'épisode au dîner, mon père lâche un laconique « Ne t'attache pas trop ». Je ne comprends pas. C'est alors qu'il m'annonce « Josh, tu as vraiment fait un super boulot avec 65. »« Il s'appelle Am, Dad », le corrige Lucie. « Am, 65, c'est lui dont je parle. » Tu as amené ce petit chimpanzé à un point que je n'imaginais même pas, poursuit mon père. Les ingénieurs, les soigneurs, tous pensent qu'il est apte.
Apte ?
À quoi ? Mais je m'en doute. La sentence tombe cependant comme un couperet. À intégrer le programme Astrochimp.
Je ne veux pas.
Mes larmes n'y changent rien. Je quitte la table. Je ne suis pas en mesure d'entendre la suite. L'essentiel est que mon père m'enlève Am pour en faire un candidat à la conquête spatiale. Je suis certain qu'il va réussir tous les tests. Dans ce cas, je n'ai plus aucune chance de le revoir vivant. Il sera le Laïka américain, et cette idée m'est tout bonnement insupportable. Je réfléchis à ce que je peux faire pour contrecarrer les plans de mon père. Quelle chance nous reste-t-il à Ham et moi d'empêcher qu'il intègre le programme prévu par la NASA ? Ce n'est qu'à 5 heures du matin que l'évidence m'apparaît. Silencieux, je sors de la maison et parcours le chemin qui me mène au hangar des chimpanzés. Le soldat Harper n'est pas à la barrière. Je me faufile en dessous et rase les murs. Je suis habillé en noir. Personne ne m'a vu. Je me dirige dans la nuit. Je connais l'endroit par cœur. Je laisse dans mon dos 2 portes qui s'ouvrent à droite et poussent la 3e sur la gauche. J'allume la lampe torche que j'ai pris soin d'emporter. Ham est debout. L'heure inhabituelle de ma venue ne le perturbe pas outre mesure. J'ouvre sa cage et il se blottit dans mes bras. Je sens son petit cœur battre. Ça me rend tout triste. Je lui caresse le dos et lui explique mon plan en chuchotant. Il frappe sa poitrine et penche un peu la tête pour m'écouter plus attentivement. « Ham, cette nuit, tu reprends ta liberté. Tu. » La porte du labo s'ouvre, la lumière s'allume et mon père fait son entrée. Il n'est ni en colère ni fâché. Il paraît déçu et lâche froidement. Tu ne comprends rien de rien, Josh. Les enjeux de cette mission s'élèvent à des milliards de dollars. Et plus que ça, c'est la domination du monde libre. Oui, libre, tu m'entends, qui en dépend. Je suis bouleversé. Les yeux de Ham vont de mon père à moi. Il ne comprend pas. Je bredouille. D'un geste, mon père me fait taire. Il détache Ham de mes bras et le porte à son tour. Ham se laisse faire. Il aime beaucoup mon père. Et joue comme à son habitude avec le col de sa chemise. « Sors maintenant, » m'ordonne mon père. « Tu m'attends devant la barrière. » Ham me regarde quitter la pièce. Il pousse un cri bref, déchirant, qui m'arrache les larmes. Je ne me retourne pas. Je sais que mon attitude vient de sceller notre avenir. Dans les cages d'à côté, les autres singes lui répondent. On est le 15 octobre 1958. Désormais, et pour un temps illimité, l'accès à la base m'est interdit.
This is Mercury Redstone 2, MR2. The MR2 craft will carry a chimpanzee, specially trained for the mission at Holloman Air Force Base in New Mexico.
Chapitre 9. L'entraînement.
J'attends Joshua, mais il ne vient plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais après cette fameuse nuit, ma vie change du tout au tout. Je rejoins 40 autres congénères. C'est le père de Josh qui supervise tous les tests auxquels nous sommes soumis. Je sens bien qu'il place beaucoup d'espoir dans mes capacités, mais lesquelles ? Il faut que je m'accroche. Et que je ne le déçoive pas, lui non plus. Peut-être que si je réussis tout bien, je pourrais revoir Josh. Quoi qu'il en soit, je n'apprécie guère la compagnie des autres chimpanzés. Ils s'interpellent bruyamment. Parfois, ils se battent. Je me tiens toujours en retrait dans ces cas-là. Ils m'oublient très vite et je reste seul. De toute façon, à part la parenthèse Joshua, j'ai toujours été seul. Bébé, je voulais même mourir. Personne ne m'attendait et je ne manquais à personne à la mort de ma mère. Puis Josh a tout changé. Aujourd'hui, je veux vivre et m'en sortir. Et si pour cela, mon avenir passe par la salle des machines, alors je joue le jeu. Tous les matins, les soigneurs nous conduisent dans une salle aménagée pour ce que je comprends être un entraînement. Tous les matins, la compétition est rude et acharnée entre nous, les primates. Chacun de nos soigneurs, le mien s'appelle Silas, nous encourage à répéter encore et encore des mouvements étranges. Le champion du jour, et par ricochet son soigneur, reçoit alors les louanges du père de Joshua. Je saisis très vite que je tiens là un moyen de me distinguer. Le programme Mercury peut être ma planche de salut. Attention, je sais que je dois me méfier de 06, 38 et 74, mais je la joue finement. Tout est dans la régularité. J'adore jouer. C'est grâce à Josh. Une fois dans la pièce où se trouvent les appareils servant à l'entraînement, et alors que les autres se dissipent, je reste concentré. J'attends que Silas me montre quoi faire. Ce sont les ingénieurs qui mettent au point les exercices. On passe deux par deux. Nos soigneurs nous installent derrière une même machine. On dirait une sorte d'œuf avec un tableau de bord et plein de boutons. Et pendant 30 minutes, on doit répéter des gestes. Silas est toujours à côté de moi. Il est le seul qui continue à m'appeler âme. Sa voix est apaisante. Il ne s'énerve jamais, même quand je me trompe. Derrière une vitre, je peux voir le père de Joshua et des ingénieurs avec leurs blouses blanches qui prennent des notes. La salle des machines est une pièce qui me devient vite familière. J'aime son odeur et ses bruits. Les exercices évoluent chaque jour. Maintenant que certains d'entre nous ont été éliminés, les blouses blanches changent un peu les règles. Désormais, c'est assis et sanglé dans une coque rigide que je dois répéter et répéter encore les mêmes gestes. Puis vient le tour des électrodes qu'on me met sur le crâne et sur la poitrine. C'est juste quand on les enlève que je n'aime pas ça. Ça tire les poils. Sinon, je demeure impassible. J'entends les humains plaisanter entre eux à mon sujet. 65, c'est un sacré numéro. Alors franchement, à bien y réfléchir, je préfère travailler avec lui qu'avec l'équipe de Shepard. Tu l'as dit, Bill, affirme un autre. Shepard? Moi, je ne sais pas trop qui c'est. Je l'ai juste vu une fois à travers la vitre, lors d'un de mes entraînements. Tout le monde était excité parce que j'avais tout réussi sans me tromper. Mais lui a dit, énervé, « Mais c'est juste un foutu singe, les mecs. Un foutu macaque. Un astrochimp, les gars, pas un astronaute. Vous saisissez la différence ?» Bon, ça m'a fait grincer des dents. Je ne suis pas un macaque, ni un gibbon, encore moins un ouistiti. Je suis un chimpanzé. Je n'ai pas capable de faire la distinction, le shepherd. Moi, je l'envoie au diable. Mon exercice préféré entre tous est celui où je suis assis dans la coque avec 3 mini-écrans et 3 leviers devant moi. Là, de façon aléatoire, une lumière apparaît sur un des écrans. Mon job, c'est de baisser le levier correspondant. Par exemple, la lumière est envoyée sur l'écran du milieu. J'abaisse le levier du milieu. À droite, et c'est celui de droite. Au milieu à nouveau, et c'est reparti. Au début, ça va super doucement, et puis de plus en plus vite. À chaque réponse correcte, à chaque tâche correctement exécutée, un morceau de banane. Si on se trompe, une légère décharge électrique sous la plante du pied. Je déteste les bananes, mais déteste encore plus les décharges. Très vite donc, je bats tous mes concurrents. Je deviens redoutable. Surtout le jour où je comprends que je peux utiliser mes 2 mains. Les ingénieurs me poussent alors dans mes retranchements, me défient, mais je les surprends à chaque fois. Silas est super fier, et ça me rend heureux. Je vois dans ses yeux la même expression que celle qu'avait Joshua lorsque je le bluffais. Les blouses blanches disent alors « Ce singe va plus vite que le plus rapide de nos astronautes. » Ceux qui ne connaissaient pas mon histoire apostrophaient le père de Josh en lui demandant « On ne sait pas où vous l'avez dégoté, celui-là, commandant en chef Shapiro, mais c'est un malin. Hein » Les journées s'enchaînent et les heures s'accumulent. Maintenant, je vais encore plus vite que l'ingénieur qui doit consigner mes temps de réponse. Je repousse chaque jour les limites. En quelques mois, je deviens le champion, et plus personne sur la base d'Holoman ne l'ignore. Je ne sais pas à quoi cela va servir, mais j'espère que Joshua est au courant et qu'il va revenir me voir. Il me manque beaucoup.
One at a time, the chimpanzees are acclimated to the couch and the spacecraft through simulated flights in the pressure chamber.
Chapitre 10. Choisi.
Dad ne parle plus jamais de ce qui se passe sur la base. Je ne pose pas de questions non plus. Ça fait 1 an et demi que je n'ai plus remis les pieds au Medical Center. J'ai sauté 2 classes. Je suis en train de préparer mes examens pour rentrer à l'université. Lucie y est depuis 1 an. Elle a choisi de retourner en Californie, à l'UCLA. Mes parents ne s'y sont pas opposés. Elle veut devenir professeure de français. Je ne sais pas si elle a revu Jesse Borgman. Elle ne rentre quasi plus jamais à Santa Fe. Elle vit sa vie, et je l'envie. Mes parents et moi évoluons sur une autre planète. nous partageons désormais trop peu de choses. Mon père me surprend donc, lorsqu'à table, il dit tout de go « On dirait que Ham anticipe les réponses. Aujourd'hui, il n'a commis aucune erreur. Et quand on l'a détaché de l'appareil de test, il m'a regardé et il s'est applaudi. » J'ai une boule dans le ventre. Je trouve ça cruel qu'il me parle de ça. Et en même temps, je suis heureux. D'abord parce que mon père l'appelle Ham, et ensuite parce que le tour que je lui avais appris, il le fait encore. Je suis fier de mon singe. Mais j'ai peur. Peur parce que le programme Mercury continue. Peur parce que si les astrochimpes remplissent à la perfection leur mission, toutes les fusées que la NASA envoie dans l'espace explosent encore en vol. Cela ne peut signifier qu'une chose. Le retour sain et sauf du singe qui serait choisi est techniquement improbable. La seule chose qui me console, c'est qu'aucune des bêtes n'a conscience du danger qu'elle encourt. Voilà, au laboratoire, les ingénieurs et les soigneurs fêtent nos 1000 heures d'entraînement. Beaucoup d'astrochimpes ont déjà été écartés. 38 a été jugé trop lent, finalement. 54, pas suffisamment concentré. 14 et 22, lunatiques. Nous ne sommes plus que 10. 1000 heures, 10 astrochimpes. Et j'en fais partie. Je crois même que je suis en tête de liste. Mais pourquoi ? Je l'ignore toujours. C'est en novembre 1960 que le pays élit John Fitzgerald Kennedy à la présidence des États-Unis d'Amérique. Lors de son discours d'investiture, il affirme sa motivation à poursuivre les missions spatiales. Le jour est venu, sur la base d'Holoman, de prendre les mensurations des astrochimpes. La NASA débloque le budget pour fabriquer des combinaisons à leur taille. Silas vient me sortir de ma cage. Je lui saute dans les bras, puis descend sur le sol. Je le tiens par la main quand nous quittons la pièce. Pour la première fois depuis très longtemps, il ne me conduit pas à la salle des machines, mais dans une autre pièce. Je le sens un peu nerveux. Sa main glisse dans la mienne. On m'installe sur une table et on commence à me mesurer dans tous les sens. Un ingénieur dit qu'ils ont un prototype à ma taille. Je ne sais pas ce que c'est un prototype. Je trouve juste qu'il y a beaucoup de monde autour de moi et je n'aime pas ça. Je commence à remuer et Silas tente de me calmer. Soudain, ils sont trois à me tenir et à m'enfiler un truc hyper serré. Je suis incapable de faire le moindre mouvement. Je me débats comme un forcené, je crie, je montre les dents, je balance des coups. Mais je perds, évidemment. C'est engoncé dans cette espèce de combinaison qu'on me transporte, comme une planche de bois dans la salle des machines. Les lumières peuvent bien s'allumer, cela ne m'intéresse pas. Ils peuvent bien m'envoyer des décharges sous les pieds, je ne les sens pas. Je suis obsédé par une seule chose, enlever ce machin qui me serre et m'emprisonne. La séance ne dure que 5 minutes. J'ai tout raté. Silas me déshabille vite fait et je suis à nouveau très calme. Je veux même taquiner les leviers, mais les blouses blanches semblent préoccupées. Je suis curieux de savoir comment va réagir 73, tiens. Lui qui déteste encore plus qu'on le touche. Bonne chance, les gars. Mais fichez-moi cette combine de malheur à la poubelle. Ou donnez-la à Shepard, tiens, ça l'occupera. Finalement, rien n'est fait dans ce sens. Chaque jour, on me renfile cette combinaison. Au final, je m'accommode à l'inconfort de ma tenue. Tout comme les 7 autres astrochimpes restant dans l'aventure. Hier, les ingénieurs nous ont construit une capsule fermée. Ça va. La nouveauté, c'est qu'on nous apprend à boire de l'eau en aspirant avec une sorte de paille. Sinon, la capsule est la même que lors des autres entraînements. 3 mini-écrans, 3 leviers. La routine, en somme. Le 19 décembre 1960, la mission Mercury Redstone 1A est une réussite. Pour la première fois, la fusée envoyée dans la stratosphère n'explose pas et la tour de sauvetage retombe intacte dans l'océan Atlantique. Un vol habité et un retour sont désormais envisageables. J'ai toujours peur, mais cette fois je fonde un espoir immense sur les ingénieurs de la NASA. Au centre de médecine aérospatiale de l'Air Force Base d'Holoman, les choses se précipitent aussi. Une dernière sélection est faite. C'est à mon père que revient cette tâche. Il en choisit 6. 2 femelles et 4 mâles. 6 chimpanzés prêts à s'envoler pour Cap Canaveral en Floride. C'est de là-bas que la majorité des fusées américaines sont lancées. Ham est un de ces 6.
The modified Redstone with its Mercury craft stands 84 feet high and measures 70 inches in diameter.
Stand for 0-5-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Chapitre 11. Nous dire adieu.
Nous sommes le 2 janvier 1961. Il est 7 heures passées de 11 minutes lorsque mon père frappe à la porte de ma chambre. Il m'ordonne de m'habiller. Lui est déjà en uniforme. Dans une heure, en tant que superviseur en chef de la mission, il va s'envoler pour la Floride avec les astrochimps. Je sais qu'Am en fait partie. Il nous l'a annoncé hier soir au dîner. J'enfile un pantalon, une chemise et une paire de baskets et je descends dans la cuisine. Mam est déjà debout et s'affaire devant une poêle d'œuf brouillé et de bacon grillé. Mon jus de pamplemousse est tout juste pressé. Je n'arrive à rien avaler. Mon père, à sa manière brusque, m'accorde, je le comprends, une dernière rencontre avec Am. J'ai presque 17 ans, mais je me mets à pleurer comme un gosse. Je n'ouvre pas la bouche. Une émotion de la sorte et mon bégaiement revient au galop. Mon père me presse l'épaule. Ce geste signifie en langage Saul Shapiro que sa décision 2 ans plus tôt de m'interdire l'accès à la base n'avait rien de personnel. Je comprends et hoche la tête. Il me tend la main et je la lui serre. Je glisse dans la poche de mon pantalon une de ces petites pommes rouges et jaunes qu'Am adorait tant. Avant de monter dans la jeep du militaire venu nous chercher, j'embrasse Mam. Ses joues sont mouillées. À notre arrivée sur la base, les soigneurs transportent les caisses contenant les singes. Mon père fait un geste et le soldat Silas dépose la cage sur le sol. Dans cette cage se trouve Am.
Am, qu'est-ce que tu as changé, mon vieux? T'es devenu un pro. Paré. C'est Joshua. Je m'accroche au barreau de ma cage. Il a grandi, mais il a toujours son regard d'enfant. C'est un homme-enfant, ou un enfant-homme.
Je m'accroupis pour être à sa hauteur. Am est debout et tient fermement les barreaux avec ses deux mains. Lentement, il en détache une et la tend vers moi. J'approche mon visage. Il frôle mes cheveux et caresse ma joue. Lui non plus n'a pas oublié son premier geste à mon égard. Une boule monte dans ma gorge et des larmes jaillissent. Je lui touche le visage, comme la première fois. C'est l'humain que je préfère sur Terre. Il n'a pas l'air fâché contre moi, je suis soulagé. Sa joue est mouillée, pourtant il ne pleut pas. Mon émotion ne doit pas m'empêcher de lui dire ce que je suis venu lui dire. Que je vais l'attendre ici. Et que des gens très sérieux vont tout faire pour les ramener, lui et les autres, sains et saufs. Tu vas réussir, Am. Tu vas réussir. Tu es le meilleur. Et ils vont pas te laisser tomber. C'est le moment de lui offrir mon cadeau. Je sors la pomme de mon sac et je la lui tends à travers les barreaux de sa cage. C'est pour toi, prends. Il la regarde, mais ne s'en saisit pas. Avec son doigt, il désigne ma bouche. C'était notre rituel. Je dois mordre dedans en premier. C'est ce que je fais. Il pousse un petit cri et m'arrache le fruit des mains en se jetant dessus. Tout et rien n'a changé. Il la dévore tranquillement jusqu'au trognon. Derrière nous, les soldats terminent de charger les dernières caisses dans un avion de l'US Air Force. Je pleure toujours, mais je m'en moque. Mon père pose sa main sur mon épaule et me demande le plus gentiment possible de lui dire adieu.
Am, mon vieux, ne m'oublie pas. On se dit juste au revoir, on se reverra, promis.
Qu'il a l'air triste, mon humain.
Je tends le bras et pose un doigt sur sa bouche. Puis tandis que Josh se relève, Silas attrape ma cage. Je monte dans un avion. C'est la première fois que j'en prends un. Soudain, Ham pose un doigt sur ma bouche. Une sorte de courant me traverse. Je me relève comme groggy. Le soldat qui attendait l'ordre de mon père saisit la cage contenant Ham. Je passe la journée enfermé dans ma chambre. Je sèche les cours. Et Ham ne me dit rien. Le soir, alors qu'Ham a depuis longtemps atterri à Cap Canaveral, Ham frappe à la porte de ma chambre.
« Josh, il faut que tu manges quelque chose. »« C'est bon, Ham. Tu peux entrer. »
Elle ouvre la porte. Elle tient un plateau avec un verre de lait et mes sandwichs préférés. Le premier au thon, le deuxième à la confiture de fraises et au beurre de cacahuète.
J'ai pensé que tu aurais faim.
Effectivement, mon ventre gargouille, mais je n'y avais jusqu'alors pas prêté attention. Merci, Mam.
Mais je serais venu. Fallait pas te donner cette...
Je m'arrête devant le haut parfait que forme la bouche de ma mère.
« Tu vas bien, Mam ?»
Elle hoche la tête, mais ne dit rien.
« Mam, parle-moi, s'il te plaît. Tu me fais peur.
Josh, tu ne bégais plus ?» réussit-elle enfin à dire. Et c'est vrai.
Ham est un magicien. Ham va réussir. C'est obligé.
Now, the chimpanzees arrive at Cape Canaveral. One will be selected for flight.